Le journal de la mi-journée présenté par Raphaël Duchemin.
C'est à son journal qu'il a réservé sa toute première déclaration. « Mon cancer vient d'en prendre un sale coup dans la gueule », dit Bernard Tapie à la Provence. L'homme d'affaires est relaxé, comme les cinq autres prévenus, dans l'affaire de l'arbitrage controversé qui lui avait permis d'empocher en 2008 plus de 400 millions d'euros. Pas d'escroquerie pour Bernard Tapie, pas de complicité non plus pour Stéphane Richard. L'actuel patron d'Orange jouait la suite de sa carrière dans ce dossier. Alors comment la justice en est arrivée à ses conclusions ? Lecture totalement différente au civil. On essaiera de comprendre avec Chloé Triomphe qui a suivi de bout en bout l'audience pour Europe 1 et on appellera aussi Laurent Mauduit, le cofondateur de Mediapart qui a notamment écrit Tapie, un scandale d'État. À la une aussi dans ce journal, le bac avec enfin les résultats définitifs. L'écotaxe mise en place sur les billets d'avion, c'est la ministre des Transports qui l'annonce. Effet immédiat à la Bourse de Paris, c'est Air France qui chute. Le paracétamol en question, l'agence du médicament met en place un logo pour nous alerter sur ses effets en cas de surdose. Et puis le Tour de France, quatrième étape, c'est parti entre Reims et Nancy à La Philippe, toujours en jaune. La météo, Elena Morna, orage au sud, soleil au nord.
Des orages qui seront encore costauds, hein, avec beaucoup de pluie entre les Pyrénées-Orientales, le Massif central et le sud des Alpes. Sur les deux tiers nord, c'est clair, sec, ventilé, donc agréable. Et toujours le grand écart des températures, avec 19 degrés en bord de Manche, 34 près de la Méditerranée, Raphaël.
Merci Elena. Météo complète, ce sera juste avant 13h sur Europe 1.
Europe 1.
Il était donc jugé pour escroquerie. Bernard Tapie vient d'être relaxé par le tribunal correctionnel de Paris. Le dossier, ça fait des années qu'il est ouvert. C'est celui de l'arbitrage controversé dans la revente d'Adidas au Crédit Lyonnais. Décision, souvenez-vous, qui lui a permis d'empocher plus de 400 millions d'euros. Or, la justice a estimé ce matin qu'il n'y avait aucun délit constitué. La fin d'un combat acharné pour l'homme d'affaires et pour son avocat, Maître Hervé Temim.
Je suis très ému parce que je suis très satisfait. D'abord pour Bernard Tapie, qui vit des moments très difficiles, mais pour lequel je crois que cette décision est quelque chose d'extraordinaire. Je l'ai prévenu immédiatement et il était très ému. La certitude qu'on avait raison, qu'il avait raison, était si grande chez lui, que malgré les craintes qu'on pouvait légitimement avoir compte tenu justement de toutes les décisions qui étaient intervenues avant celle-ci, étaient si fortes que ça a été, une joie extraordinaire.
Hervé Temim, votre micro. Chloé Triomphe, bonjour.
Bonjour.
C'est vous qui avez suivi de bout en bout ce procès pour Europe 1. Hervé Temim, qu'on a vu ému aux larmes et qui a salué la justice.
Oui, vous avez peut-être ressenti l'émotion dans la voix de Maître Hervé Temim, émotion non feinte, car à l'énoncé du jugement, au fur et à mesure qu'il comprenait la direction que prenait le tribunal, eh bien, les larmes lui sont montées aux yeux. À la sortie, il a effectivement salué un jugement, je cite, d'une netteté exceptionnelle rendue avec une indépendance rare. Alors vous allez me dire pourquoi cette remarque ? Eh bien parce que pour Maître Temim, il y a désormais un paradoxe judiciaire entre deux décisions incompatibles, celle rendue ce matin et celle rendue en 2015 par la justice civile qui avait annulé l'arbitrage précisément pour fraude et condamné Bernard Tapie à rembourser cette somme, ce qu'il n'a d'ailleurs pas commencé à faire. Or, aujourd'hui, la justice pénale considère qu'il n'y a ni fraude, ni escroquerie, ni détournement de fonds publics et que la preuve n'est pas rapportée que Bernard Tapie ait activé ses réseaux pour que des instructions favorables soient données en sa faveur. Écoutez Maître Temim.
Pour moi, il n'y a aucune cohérence entre ces décisions. Parce que vous vous rendez compte que c'est au vu de procès-verbaux de ce dossier qu'une cour d'appel civile a pu dire qu'il y avait eu une fraude, alors que le tribunal vient expressément, après un mois de débat, l'intégralité de la connaissance du dossier et la contradiction entre tous les acteurs du procès, de dire expressément le contraire. Il n'y a aucune espèce de cohérence entre ces décisions civiles et la décision du tribunal.
Relaxe donc Chloé pour Bernard Tapie qui n'assistait pas à l'audience hein, puisqu'il est hospitalisé. C'est le plus beau jour de sa vie, voilà ce qu'a dit son épouse il y a quelques minutes. Jour important aussi pour Stéphane Richard, l'actuel PDG d'Orange, lui aussi relaxé comme tous les prévenus d'ailleurs dans ce dossier. Il faut dire Chloé que le patron de l'opérateur télécom jouait son avenir professionnel.
Oui, effectivement, l'actuel PDG d'Orange avait laissé entendre qu'il remettrait son mandat en jeu à la tête du groupe s'il était condamné. Lui qui était, à l'époque des faits, le directeur de cabinet de Christine Lagarde à Bercy. Il était donc poursuivi pour complicité et le tribunal a souligné que son comportement n'était pas susceptible d'une qualification pénale, qu'il n'y avait aucun lien entre ses actes à Bercy et l'arbitrage rendu. Il a donc été relaxé ce matin pour son plus grand soulagement. Écoutez-le.
C'est bien évidemment une très grande satisfaction, un très grand soulagement. J'ai vécu pendant des années avec des accusations portées contre moi, dont je me suis toujours défendu avec la plus grande vigueur. J'ai subi tout ce qu'une procédure comme celle-là peut représenter, également aussi dans le cadre de mes fonctions. Donc bien évidemment, c'est pour nous une très grande satisfaction de voir la justice établir enfin, l'innocence, la mienne en tout cas, et dire avec la plus grande netteté que ce recours à l'arbitrage a été fait de façon légale et de façon légitime.
Voilà, soulagement de Stéphane Richard, vous l'entendez. Soulagement aussi pour les autres acteurs de ce dossier. Tous blanchis, tous relaxés ce matin. D'abord, le juge-arbitre Pierre Estoupe, âgé de 92 ans. Il était absent du procès pour cause de maladie. Il était reproché d'avoir eu la main mise sur les deux autres arbitres et d'avoir favorisé Bernard Tapie dans la décision arbitrale en se concertant avec l'avocat historique de ce dernier, Maurice Lantourne. Eh bien, le tribunal a estimé que Pierre Estoupe avait agi conformément aux règles d'usage et que même s'il pouvait subsister un doute sur son impartialité subjective, eh bien, la preuve n'était absolument pas rapportée. Donc, de manière symétrique, l'avocat de Bernard Tapie, Maurice Lantourne, a été relaxé, tout comme les deux anciens hauts fonctionnaires à la tête du CDR, le consortium chargé de régler le passif du Crédit Lyonnais.
Merci Chloé Triomphe. Bonjour Laurent Mauduit.
Bonjour.
Merci d'être avec nous en direct sur Europe 1. Vous êtes le cofondateur de Mediapart et vous avez écrit deux livres sur cette affaire, hein, Tapie et le scandale d'État et sous le tapis. Manifestement, Laurent Mauduit, la justice estime aujourd'hui qu'il n'y a rien sous le tapis, en tout cas qu'il n'y a pas escroquerie.
Ouais, c'est stupéfiant. Pour une fois, je suis d'accord avec l'avocat de Bernard Tapie et Hervé Temim. Tout ça est totalement incohérent. Lui pointe une incohérence en disant comment est-ce qu'il peut y avoir fraude dans la procédure civile, ce qui conduit en 2015 à l'annulation de l'arbitrage, et comment peut-il ne pas y avoir fraude dans la procédure pénale. Mais ces incohérences, je peux vous en citer d'autres. Comment concevoir que Tapie soit relaxé alors que c'est le principal protagoniste de l'affaire et que dans le même temps Christine Lagarde, dans une autre procédure pénale devant la Cour de justice de la République, soit elle condamnée. Même
dans
si
une
elle est
autre
par
procédure pénale, vous le dites bien.
Oui, devant une autre juridiction, la Cour de justice de la République, mais pour les mêmes faits. Hein. Comment, alors que les mêmes griefs reposaient sur Stéphane Richard et sur elle, l'une est condamnée, même si c'est de manière modique, et l'autre est absous. C'est totalement incohérent.
Donc il y a deux justices. Il y a deux justices clairement aujourd'hui, Laurent Mauduit.
Ah ben, oui, ça, la Cour de justice de la République, on le savait que c'était une juridiction d'exception.
Oui, mais non, qu'est-ce là, que vous dites alors pour la justice au civil en 2015?
Oui, bien sûr. Le juge, en 2015, on annule l'arbitrage sur la base de documents puisés dans l'instruction pénale qui est aboutie aujourd'hui. Donc comment est-ce que les mêmes pièces sont interprétées différemment? Les mêmes pièces, hein, les mêmes pièces d'instruction sont interprétées différemment par les magistrats au civil et par les magistrats dans la procédure pénale.
Mais alors, qui fait la bonne lecture? Les magistrats au civil ou les magistrats au pénal?
Ben écoutez, c'est incohérent et moi j'en viens à ce qui me semble le constat essentiel. On sait qu'à l'origine de l'affaire, il y a un lien entre Nicolas Sarkozy et Bernard Tapie. C'est la raison pour laquelle la justice ordinaire est interrompue et suspendue en 2007 et on va à un arbitrage qui n'était pas nécessaire. L'État était en train de gagner. Or, la justice a renoncé à chercher la vérité. Et donc de cette affaire ne sort pas une vérité judiciaire. On ne sait pas ce qui s'est conclu, quel était le pacte entre Nicolas Sarkozy et Bernard Tapie.
On le saura peut-être en appel s'il y a appel.
Eh oui, ben oui, il faut sans doute l'espérer parce que pour l'instant, l'affaire reste une énigme.
Merci Laurent Mauduit d'avoir été avec nous, cofondateur de Mediapart et auteur de ces deux livres sur cette affaire, Tapie, le scandale d'État et sous le tapis, aux éditions Brochet.
Il est 2h38.
Europe 1.
Restez avec nous dans un instant. Le bac, enfin le bout du tunnel pour les élèves, mais les parents, eux, préparent les représailles. À tout de suite.
Il est 12h40, la suite du journal sur Europe 1 avec Raphaël Duchemin.
Décidément, il fallait avoir les nerfs solides cette année pour être bachelier. Les oraux de rattrapage touchent à leur fin et les premiers résultats définitifs commencent à tomber. Ce matin, sur Europe 1, Jean-Michel Blanquer a prévenu, il y aura une procédure diligentée pour chacun des professeurs grévistes. En attendant, ce matin, ce sont une fois de plus les élèves qui ont trinqué, même en découvrant leurs notes définitives, Claudia Bertram.
Oui, ce matin, à 7h30, ceux qui étaient convoqués pour les oraux de rattrapage ont eu leur note juste avant l'examen. Certains ont ainsi échappé à l'oral au dernier moment, d'autres ont appris qu'ils avaient moins de points à rattraper. Et pour tous les autres candidats, les résultats définitifs sont disponibles depuis 10h. Bonne nouvelle pour Kevin, qui avait deux notes provisoires.
Je viens d'avoir mon bac. Il m'avait mis 9 et 9 en maths et SES, et là j'ai 14 en maths et 13 en SES, du coup j'ai le bac sans rattrapage. Je voulais être heureux, fêter ça avec mes amis le vendredi, comme tout le monde, et du coup, là, ça a décalé à lundi, puis mardi. J'ai le fêter aujourd'hui avec mes parents quand même, c'est déjà ça.
Un plaisir un peu gâché donc. Pour Sinan, c'est carrément la déception. Avec ses résultats définitifs, il pensait échapper à ses 2 euros de rattrapage. Mais ses notes provisoires, visiblement plus élevées, ont été conservées.
La question qu'on se pose, c'est j'ai eu combien ? Parce que quand même, on a passé 4 heures sur une copie. On a dû travailler toute l'année sur cette matière. Si à la fin, on n'a pas de notes, je vais déjà demander de voir ma copie. Et on m'a dit que ce sera en septembre, donc il faudrait que j'attende.
Sinan s'apprête donc à passer ses oraux d'ici une heure. Il devra ensuite attendre jusqu'à 19h30 pour savoir s'il a son bac.
Claudia Bertram au lycée Le Corbusier à Aubervilliers. Il n'y a pas que les élèves qui en ont ras-le-bol de ce micmac autour des notes. Les parents aussi commencent à trouver que la plaisanterie a assez duré. Pour leur venir en aide, la FCPE a ouvert une hotline. Et depuis ce matin, Marion Jorte, le téléphone n'arrête pas de sonner.
Oui Raphaël, ils ne sont qu'une dizaine ici au siège de la FCPE de Paris pour répondre à tous les appels des parents. Le syndicat lycéen Lunel est venu prêter main forte aux parents d'élèves qui ont mis en place la ligne SOS Bac. C'est bien simple, depuis ce matin, les appels arrivent de toute la France et il y a autant de questions différentes que d'appels. Écoutez le témoignage d'Églantine. Elle est bénévole à Lunel et a pris une vingtaine de témoignages en quelques heures.
On a écrit une fiche type pour répondre aux élèves, aux parents, aux enseignants qui nous appellent. On n'est pas assez en plus pour répondre. Il y a beaucoup d'élèves qui sont dans des impasses et c'est très difficile de leur répondre parce que, on est à la fois inquiet et triste pour eux. Il y en a qui nous disent qu'ils n'ont pas les moyens de redoubler. On prend les numéros de téléphone parce qu'on va essayer de faire un recours administratif collectif.
On sent les bénévoles assez démunis comme Églantine. Il y a ceux qui appellent parce qu'ils doivent redoubler, mais aussi ceux qui ont eu des notes provisoires, d'autres qui n'ont pas pu consulter leur copie avant ou après les rattrapages. Et devant le nombre d'appels, la FCPE va sûrement maintenir la ligne encore quelques jours.
Merci Marion Jorte pour Europe 1.
Europe 1, il est 12h43, la suite du journal Raphaël Duchemin.
Et le gouvernement l'annonce ce midi, il va mettre en place une écotaxe. C'est la ministre des Transports qui l'affirme, ce sera sur les billets d'avion. Jean-Rémy Baudot, décision prise dans le cadre du deuxième conseil écologique qui se tient en ce moment à l'Élysée.
Oui Raphaël, et selon la ministre des Transports Elisabeth Borne, il s'agit de répondre à l'aspiration des Français de faire contribuer le secteur aérien. C'est un débat récurrent depuis plusieurs mois. Alors là, on ne parle pas de taxer le kérosène. À partir de 2020, chaque billet d'avion au départ de la France sera légèrement plus cher. Le barème est assez simple. 1,50€ de plus sur un billet au départ de la France pour l'Union Européenne en classe éco. 9€ si vous voyagez en business. Pour les vols internationaux, ce sera 3€ en classe éco depuis la France, jusqu'à 18€ en classe affaires. Notez que ça ne concerne pas les correspondances, pas les vols vers la Corse ou l'outre-mer. Avec cette contribution, le gouvernement veut récolter 180 millions d'euros par an, des fonds qui seront intégralement fléchés, et là-dessus la ministre a lourdement insisté, des fonds intégralement fléchés pour financer les infrastructures de transport, principalement le ferroviaire en région.
Merci Jean-Rémy. Et effet immédiat, le titre Air France a chuté de 4% ce matin à la Bourse de Paris. L'alerte aux orages a été levée cette nuit sur les départements du Sud-Ouest, mais hier encore de l'Ariège aux Pyrénées en passant par les Landes, la pluie et la grêle ont fait des dégâts et ces épisodes se répètent de plus en plus. Une question sur laquelle se sont justement penchés les sénateurs puisqu'ils rendent un rapport sur les indemnisations en cas de catastrophe naturelle. Lors d'Autriche, manifestement, le système tel qu'on le connaît a vécu.
Oui, le système d'indemnisation des victimes de catastrophes naturelles n'a pas évolué depuis 1982, cela fait presque 40 ans, et dans le contexte actuel où les tempêtes, les inondations sont de plus en plus nombreuses et de plus en plus intenses, ce système est caduc, explique ce rapport qui évoque aussi le parcours du combattant que cela représente pour les sinistrés. Face à la sécheresse, par exemple, un dossier sur deux seulement reçoit une réponse favorable. Dans des centaines de maisons partout en France, les sénateurs ont constaté qu'il y avait des fissures sur les murs extérieurs. Les habitants à l'intérieur même entendent leur maison craquer. La procédure d'indemnisation des victimes est longue et manque de transparence, disent les sénateurs. Certains voient leur dossier rejeté quand celui de leur voisin est accepté, par exemple. Alors, les sénateurs veulent qu'un débat puisse se tenir à l'automne au Sénat et attendent par ailleurs que le gouvernement fasse des propositions sur le sujet.
Merci. Lors de Autriche.
12h45, le journal sur Europe 1, Raphaël Duchemin.
Allez-vous vous faire flasher cet été sur les routes des vacances? C'est la question que beaucoup d'automobilistes se posent, puisqu'avec la crise des gilets jaunes, 75% des radars, il y a 3 mois, étaient hors service. Et pourtant, le ministre de l'Intérieur avait l'air plutôt confiant, c'était la semaine dernière.
Ayons en tête que l'essentiel des radars sur les grands axes de circulation fonctionne.
Bonjour Pierre Herbulot.
Bonjour.
C'est aujourd'hui que se tient le Conseil national justement de la sécurité routière et la question du fonctionnement des radars sera forcément au cœur des discussions.
Oui, parce que sur l'ensemble du territoire, le constat n'est pas aussi reluisant que ce que laisse entendre Christophe Castaner. Si sur autoroute, effectivement, plus de la moitié des radars remarchent, sur les axes secondaires, c'est une autre paire de manches. C'est très difficile d'avoir des chiffres officiels. Le ministère de l'Intérieur verrouille toute communication sur les radars. Alors on a choisi un département fréquenté l'été, la Charente-Maritime, et on a vérifié nous-mêmes l'état de ces radars. Et donc dans le département, 8 radars seraient en état de marche pour 16 hors service, les deux tiers. Alors attention, ce n'est pas forcément représentatif au niveau national, mais sur les sites spécialisés, les photos de radars bâchés, tagués ou brûlés se comptent par centaines. Si bien que le gouvernement commence à les remplacer par des radars tourelles, des genres de radars dernier cri de 4 mètres de haut. Deux d'entre eux viennent justement d'être installés en Charente-Maritime.
Merci Pierre Herbulot. L'agence du médicament ouvre-t-elle le parapluie? Elle vient en tout cas d'annoncer, Mélanie Gomez, la mise en place d'un nouveau logo pour toutes les boîtes qui contiennent du paracétamol. Ça représente 1 milliard de boîtes vendues tout de même chaque année en France. Pourquoi cette décision, Mélanie?
Eh bien, tout simplement parce que les Français n'ont pas assez conscience des risques du paracétamol. Alors attention, ce traitement reste un très bon médicament, très efficace notamment pour soigner les douleurs. Mais par contre, on n'est pas assez au courant de la dose à partir de laquelle il peut devenir toxique pour le foie. Car c'est là son principal danger. Dès qu'on dépasse les 3 ou 4 grammes de paracétamol par jour, notre foie peut être totalement détruit en quelques heures. Chaque année, ce surdosage cause des décès en France et c'est même la première cause de grève du foie. Enfin, l'autre problème, c'est que du paracétamol, il n'y en a pas juste dans le bon vieux Doliprane qu'on connaît tous. En fait, plus de 200 médicaments différents en contiennent. Il y en a par exemple dans certains traitements contre les allergies ou le rhume. Donc on peut très vite, sans même le savoir, dépasser cette dose maximum de 3 grammes par jour. Donc pour éviter ça, pour éviter ces accidents, un avertissement, surdosage égal danger, sera inscrit en rouge à l'avant de toutes les boîtes qui en contiennent. Les labos ont 9 mois pour modifier les boîtes concernées.
Merci Mélanie Gomez, spécialiste santé d'Europe 1.
Il est 12h48.
Europe 1.
Restez avec nous dans un instant. Le Tour de France, c'est parti. 4e étape, direction Nancy. A tout de suite.
Europe 1, il est 12h50. La suite du journal de la mi-journée avec vous, Raphaël Duchemin.
Il est en jaune, Julien Alaphilippe. Mais va-t-il réussir à garder son maillot de leader ?
Europe 1. Le Tour de France avec De Koninck. Fenêtres, portes, volets, terrasses composites. Dekoninck.fr.
4e étape ce mardi. Le peloton, ça y est, est parti de Reims, direction Nancy. À peu près 215 km à parcourir de la Marthe à la Meurthe-et-Moselle. Bonjour Thomas Voeckler.
Bonjour tout le monde.
Vous vivez cette course tous les jours avec nous sur Europe 1. Vous êtes notre consultant pour ce Tour de France. Dites-moi, comment Julien doit-il gérer sa course aujourd'hui pour garder son maillot et son avance ?
Aujourd'hui, c'est pas très compliqué. Il faut surtout le plus compliqué à la limite, c'est pas sur le vélo aujourd'hui pour Julien, c'est plus les à côté, les sollicitations, garder la tête froide. Il a une équipe qui est vraiment structurée pour gérer, pour conserver ce maillot jaune d'un point de vue sportif, mais également au niveau extra sportif. J'entends par là justement les sollicitations médiatiques et privilégier la récupération aujourd'hui. C'est une étape plate qui n'est pas compliquée, qui va se terminer par un sprint. Et Julien n'aura pas énormément de travail à fournir, tout comme son équipe, car les équipes de sprinteurs auront, elles, beaucoup de travail pour justement envisager un sprint massif, ce qui permettra à Julien de conserver son maillot jaune sans encombre, sauf en cas de chute, bien entendu.
Alors l'étape, justement, vous en parlez avec cette longue ligne droite jusqu'à l'arrivée. Mais avant, il y a quand même deux côtes de quatrième catégorie. Qui est-ce que vous voyez tenter de s'illustrer ?
Les équipes de sprinteurs, quand même, n'ont pas été énormément servi depuis le début. Bon, vous allez me dire, il n'y a que 3 jours, mais,
oui.
Voilà, le premier jour, il y a eu une chute. Donc, il n'y a pas encore eu de vrai sprint massif. Donc, aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a 2 ascensions dans le final, mais c'est sans commune mesure avec les ascensions qu'on a pu connaître hier. Donc, c'est des équipes de sprinteurs bien organisées et la plupart passeront ces 2 ascensions sans encombre.
Le deuxième Français, on n'en parle pas beaucoup, mais il n'est pas si loin. Dites-moi, belle journée quand même hier pour Thibaut Pinot. Il est 12e au général. Il a même grappillé des points et quelques secondes à certains leaders. J'ai vu que derrière, il y avait Van Garderen, il y a Sagan, il y a des Nibali qui sont après lui au classement.
Thibaut Pinot réalise un début de Tour de France rêvé, parfait, aucune faute, beaucoup de calme, de sérénité. La lumière est sur Julien Alaphilippe qui n'a pas pour objectif de ramener le maillot jaune à Paris contrairement à Thibaut Pinot. Donc il n'y a pas de stress, pas de pression. Très franchement, c'est un début de Tour de France rêvé pour la Groupama FDJ de Thibaut Pinot.
Merci Thomas Voeckler. On vous retrouve ce soir dans le Club Tour et merci aussi à Christophe Giustiniani qui a assuré la liaison technique. Et puis ceux qui ne sont pas derrière leur poste de radio ou la télé pour suivre la grande boucle peuvent se laisser tenter par les conseils de lecture de la librairie Mola à Bordeaux. On les retrouve tout l'été sur Europe 1 et il y en a pour tous les goûts. Stéphane Place a choisi pour nous aujourd'hui un premier roman qui nous entraîne dans les méandres du sentiment amoureux.
C'est un tourbillon, un geyser d'amour, de vie, d'envie condensé dans ce livre d'à peine 200 pages. Ça raconte Sarah, paru aux éditions de Minuit, est un premier roman, des phrases courtes qui impriment un rythme immédiat à cette histoire qui vous embarque dans le sillage amoureux de la narratrice, menant une vie paisible jusqu'à cette rencontre qui va bouleverser l'existence de cette prof. Dans cette tempête, elle est capitaine de navire, je deviens femme de marin. Ces lignes, Mariston Street, libraire chez Mola, les a dévorés.
Ça raconte Sarah, c'est l'histoire d'un amour passionné et passionnant. Une jeune narratrice qui a 27 ans à peu près, qui est dans une vie très posée avec une petite fille, professeure, documentaliste et qui s'ennuie. Et un soir de réveillon, elle rencontre Sarah qui arrive en retard à ce réveillon comme un ouragan. Et là, elles vont complètement tomber amoureuses. Ce qui m'a plu, c'est d'abord les mots que Pauline de Labroix-Allard a utilisés pour décrire cet amour complètement passionné. Et ensuite, c'est effectivement sa plume qui est absolument splendide. En fait, on sort de la lecture de ce roman complètement retourné. Moi, c'est un roman qui m'a poursuivi pendant plusieurs mois. Ça raconte Sarah et effectivement retrace l'importance et la force du sentiment amoureux, mais aussi tout le côté ravageur de l'amour. C'est une vague qu'on ressent physiquement à la lecture du livre.
La romancière Pauline de Labroix-Allard construit son livre en deux parties. D'abord, le portrait de cette femme envoûtante, Sarah, puis le voyage en Italie de la narratrice dans une ambiance très différente.
Un événement va les séparer, ce qui va rendre la narratrice folle de chagrin et elle va se lancer dans un voyage en Italie. La narratrice, c'est un personnage très ancré dans une réalité monotone, un peu routinière, pour qui la passion vient comme un ouragan bouleverser toutes les certitudes qu'elle pouvait avoir.
Ça raconte Sarah, le récit d'une passion incandescente avec cette question que vous vous poserez en refermant ce roman, peut-on mourir d'amour ?
Merci Stéphane Place, on vous retrouve demain avec de nouveaux conseils de lecture.
Il est 12h55.
Restez avec nous dans un instant, alors que les premières restrictions d'eau sont en vigueur, on vous aide à faire des économies pour ne pas gaspiller la ressource. C'est la France qui bouge, à tout de suite.
Vous écoutez Raphaël Duchemin sur Europe 1 et on regarde par la fenêtre.
Évidemment, avec Elena Morna. Alors, dernière journée, c'est promis, orageuse dans le sud.
On n'a pas le même tableau partout où on est par la fenêtre. Hein. Alors, des orages effectivement qui ont quand même donné l'équivalent d'un mois de pluie par endroit hier soir, notamment dans les Landes ou encore dans l'Ariège. On aura encore de bons cumuls ce soir, surtout entre les Pyrénées-Orientales, le sud du Massif Central et en région PACA. Des orages qui vont s'en aller par les Alpes-Maritimes et la Corse demain matin. Et puis, ce sera le retour du soleil de façon durable dans le sud. Soleil déjà bien présent sur les deux tiers nord et des températures encore bien contrastées. Ce matin par exemple, Raphaël, le super grand écart, 25 degrés entre la Marne et la Corse, 4 pour l'un, 28,8 pour l'autre. C'est un record, c'est à Calvi que la nuit a été la plus torride. Calvi où vous avez déjà en ce moment 37 degrés. Et puis à Dunkerque, on n'ira pas au-dessus de 19 degrés cet après-midi, 23 à Caen et Lille, ainsi qu'à Carcassonne, 24 à Strasbourg, Toulouse et Biarritz, des températures qui baissent quand même dans le sud, 26 à Paris et Besançon, 27 à Clermont-Ferrand et Perpignan, 29 à Quimper, Nantes et Nîmes, 31 pour Marseille. Alors c'est la fin, vous le notez, des très fortes chaleurs dans le sud. On va enfin pouvoir respirer.
Merci Elena Morna.
Et merci à vous de choisir Europe 1, mardi 9 juillet, les grands titres de l'actualité avec Raphaël Duchemin.
Mon cancer vient d'en prendre un sale coup dans la gueule, voilà ce que dit Bernard Tapie au journal La Provence, son journal, puisque le tribunal correctionnel de Paris a décidé de relaxer l'homme d'affaires, mais aussi le PDG d'Orange, Stéphane Richard, et quatre autres prévenus jugés dans le dossier de l'arbitrage controversé qui avait octroyé 403 millions d'euros à l'homme d'affaires en 2008 pour solder son litige avec le Crédit paradis lyonnais. Le bac et enfin les résultats définitifs ce matin sur Europe 1. Jean-Michel Blanquer a prévenu, il y aura une procédure diligentée pour chacun des professeurs grévistes. La ministre des Transports, Elisabeth Borne, annonce la mise en place dès 2020 d'une écotaxe allant de 1,50 euro à 18 euros sur les billets d'avion pour tous les vols au départ de la France, à l'exception de la Corse, de l'Outre-mer et des vols en correspondance. Effet immédiat, le titre Air France chute ce matin à la Bourse de Paris. Un Britannique et un Américain ont été blessés aujourd'hui lors du lâcher de taureaux des fêtes de la Saint-Firmin à Pampelune, qui attire chaque année du 6 au 14 juillet des centaines de milliers de touristes du monde entier. Et puis le Tour de France, quatrième étape, ça y est, c'est parti.
Europe 1 en direct du Tour de France.
De Reims à Nancy, Axel May avec déjà une échappée.
Oui, alors là, dès le tout début de la course, trois hommes se sont échappés. Johan Ofredo, qu'on a déjà vu longuement échapper hier, le Belge Frédéric Bakart, qui est l'un de ses coéquipiers, et le Suisse Michael Schaar. Une avance d'un peu plus de 3 minutes. Le peloton laisse filer pour l'instant. Quant au nouveau maillot jaune, eh bien, on a vu Julien Alaphilippe tout sourire, discuter à l'avant du peloton avec son compatriote Romain Bardet. Une étape sous le soleil qui passera par Châlons-en-Champagne, Bar-le-Duc, jusqu'à l'arrivée ici à Nancy, Raphaël.
Merci Axel, on vous retrouve tout à l'heure avec Marguerite Lefebvre en direct du Tour.